français parlent au français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels.
Les carottes sont cuites, je répète. Les carottes sont cuites.
Je répète.
Le loup est dans la bergerie. Je répète. Le loup est dans la bergerie. Le groove perdu va commencer. Je répète. Le groove perdu va commencer.
C'est exercer l'art de parler pour ne rien dire. Quand les mots cachent la vérité. On entend souvent ce reproche à l'encontre des dirigeants politiques ou économiques. Ils pratiquent la langue de bois. Mais d'où vient cette expression? Cette expression viendrait de la langue de chêne, qui désignait le langage de l'administration russe du 19e siècle. Un langage rigide comme une bûche. Aujourd'hui, la langue de bois est devenue une technique très utilisée en rhétorique. L'art de savoir s'exprimer pour convaincre les autres.
Bla 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 bla.
En voici un exemple.
Je suis persuadé que l'acuité des problèmes de la vie quotidienne a pour conséquence l'urgente nécessité d'un plan correspondant aux exigences légitimes de chacun.
Cette phrase est à la fois compliquée et très vague. Elle ne signifie rien.
Maman ? Je comprends pas ce qu'il dit, le monsieur.
Moi non plus, ma chérie. Pratiquer la langue de bois sert à masquer l'absence d'informations précises ou à éviter de répondre à des questions gênantes. C'est une technique de dissimulation de la vérité. Elle est souvent opposée à une autre expression utilisée en politique, le parler vrai.
On veut du vrai !
Il existe sur Internet des tableaux pour s'amuser à combiner des morceaux de phrases complètement creuses. Mais cette langue de bois est aussi nuisible. Elle consiste à cacher la vérité et à prendre les citoyens pour des idiots.
Vous nous voyez à cette table, nous avons recréé, parce que nous voudrions maintenant arriver à une chose très importante dans ce débat de télévisé Raymond Barre, François Mitterrand, c'est-à-dire démonter un petit peu les trucs des hommes politiques qui font un débat télévisé. Il y a des trucs, d'ailleurs, maintenant, il va y avoir beaucoup, jusqu'aux législatives de 78, beaucoup de débats télévisés, donc vous allez pouvoir repérer ces trucs au moment où ils passent, et vous n'en suivrez les débats qu'avec plus d'intérêt, si je puis dire. Alors, nous avons créé donc le décor, vous voyez, c'est-à-dire la longue table, les deux adversaires face à face, et puis les deux journalistes avec leurs chronos qui sont là pour vérifier la bonne tenue des débats. Et un des premiers trucs, Jean, tu t'en apercevras, vous en apercevrez, c'est au moment où arrive dans le visage, si je puis dire, de celui qui attend, une question embarrassante auquel il ne s'attendait pas. Parce que vous savez qu'ils préparent les débats avec tout leur état-major, on leur amène tous les éléments, puis il y a des fois un truc qu'ils oublient, alors ils se trouvent en face d'une question embarrassante. Alors, en face d'une question embarrassante, le premier principe, c'est le sourire. Il ne faut pas lâcher le sourire, de jamais donner l'impression à l'adversaire que tu as été touché. Alors tu vas me poser par exemple une question embarrassante et on va voir comment un homme politique essaie de s'en sortir dans ces moments-là. Vas-y, pose-moi une question embarrassante.
Alors, comment comptez-vous diminuer le prix du pain et augmenter le prix du blé pour les agriculteurs?
Voilà, très bien. Alors tu vois, le sourire.
D'accord.
Et en même temps, si tu pouvais entendre ma voix intérieure, que tu n'entends pas bien sûr, ma pensée c'est « Ah la vache ouais. !»« Ah le salaud !» Comment j'ai rien là-dessus, ils m'ont rien donné. Alors là, il faut qu'ils s'en sortent. Alors pour s'en sortir, il faut qu'ils réfléchissent et qu'ils trouvent une réponse. Seulement, il ne peut pas s'arrêter comme ça, tu vois, il ne peut pas rester là comme ça en train de dire qu'est-ce que je vais faire.
D'autant plus que j'ai dit, alors j'attends votre réponse.
C'est ça, dès que tu sens qu'il est en difficulté, tu le harcèles. Alors, il y a un procédé qui est très simple, qui est très facile, c'est des phrases qui viennent automatiquement comme ça. Ils ne pensent pas du tout à ce qu'ils disent, hein. Ils sont en train de réfléchir. Alors ça donne à peu près ceci. Monsieur Berthaud, vous m'avez demandé, vous m'avez posé une question à laquelle je m'attendais d'ailleurs. Et je dois dire que même si vous ne me l'aviez pas posée, c'est un problème que j'aurais vraisemblablement abordé moi-même. Parce que c'est un problème extrêmement grave, tu fais partir le chrono, c'est un problème extrêmement grave, extrêmement important. Et les Français et les Françaises qui nous écoutent ont le droit de savoir ce qu'il en est. Chrono, combien ça fait?
Eh bien, ça fait exactement 18 secondes.
Alors, 18 secondes, tu vois, j'ai rien dit du tout.
20 secondes, hein, pour ne rien dire.
20 secondes, mais j'ai réfléchi énormément. Alors, si ça ne suffit pas, j'enchaîne. Tu fais partir le chrono.
C'est parti.
Il a cherché, tu vois, mais ça ne suffit pas. Alors, Je voudrais, si vous le permettez, Monsieur Berthaud, répondre à cette question avec infiniment de franchise. En effet, c'est une question qui concerne au premier chef la nation et même la nation agricole qui nous écoute et qui est inquiète, et nous comprenons son inquiétude. Donc, vous m'avez posé cette question très franchement et je vais vous y répondre très franchement. Chrono, ça fait combien ?
50 secondes.
50 secondes.
Pour alors, ne rien dire.
J'ai toujours rien dit.
Mais il va falloir quand même à ce moment-là que tu finisses par me donner
oui,
une réponse.
Ça, à partir d'un certain moment, il va falloir que je dise quelque chose parce que sinon, ça finirait par se voir, même pour les gens qui ne sont pas avertis. Alors là, j'ai trois solutions. C'est-à-dire, si j'ai une réponse, si pendant ces 50 secondes, j'ai réussi à trouver une réponse, je te la donne. Si je n'ai pas réussi à trouver une réponse, j'ai deux solutions. Ou bien je noie la question, ou bien je te la renvoie.
Qu'est-ce que tu entends par là?
Alors, on va démonter le problème, on va le mettre à plat pour que les gens comprennent bien. Noyer la question, on va prendre un principe, si tu veux, tu vas essayer de me donner, tu vas pouvoir me poser une question qui n'a pas trait à la politique, ça va simplifier le problème.
Est-ce qu'on a un beau mois de mai?
Par exemple, voilà, bon, très bien, est-ce qu'on a un beau mois de mai? Bon, si on est tous les deux ou tous les quatre en train de boire un verre, tu me dis, Jean, est-ce que tu penses qu'on a un beau mois de mai? Je te réponds, non, on a un mois de mai dégueulasse, il n'y a pas de faire froid, il pleut sans arrêt. Bon, ça, c'est un principe. Mais si je suis un homme politique, je ne peux pas te répondre comme ça.
Ah, pourquoi?
Parce que les hommes politiques ne répondent jamais comme ça. Ils répondent jamais franchement, directement.
Mesdames, messieurs, je reste profondément persuadé que la rigueur conjoncturelle et l'hégémonie du marché doivent nous faire prendre conscience que les réformes sont nécessaires. Nous devons aller dans le sens des synergies égalitaires. Efforçons-nous sans relâche avec la globalisation de mieux appréhender les tâches, de soutenir l'innovation. La diversité culturelle, l'ouverture et la cohésion sont nos atouts concurrentiels. L'avenir est la solution. Vous n'avez rien compris de ce que je viens de raconter. Rassurez-vous, c'est normal, y a pas de raison de s'inquiéter. Je parle la langue de bois qui à l'ENA est enseignée pour briller dans les débats et mieux vous manipuler. Mesdames, messieurs, vous m'avez demandé comment je pense réduire le chômage et puis relancer la croissance. C'est une question intéressante, je vous remercie de me l'avoir posée. Et lisez-moi, faites-moi confiance, ensemble nous allons gagner. Je n'ai qu'une seule ambition, vous la connaissez, c'est la France. Le plein emploi, la formation des jeunes, l'égalité des chances. J'ai un projet porteur d'espoir, un idéal, la volonté. Ce n'est pas pour le pouvoir, c'est pour vous que je vais lutter. Vous n'avez rien compris de ce que je viens de raconter. Rassurez-vous, c'est normal, y a pas de raison de s'inquiéter. Je parle la langue de bois qui à l'ENA est enseignée pour briller dans les débats et mieux vous manipuler. Mesdames, messieurs, saviez-vous qu'il ne faut pas prononcer pauvre vieux, mais senior, économiquement fragilisé. On ne dit pas gel des salaires, ni politique d'austérité. On parle de croissance solidaire, ça passe mieux à la télé. Pam pada ba 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 pam pada. De raconter, vous voyez finalement, ça n'est pas si compliqué de parler la langue de bois qui à l'ENA est enseignée pour briller dans les débats et mieux vous manipuler.
Philippe Bourdel, je vous ai demandé de tirer la langue, mais parce que vous allez nous parler de langue, d'un autre
exactement,
registre
mais pas de, Jack,
de langue.
De langue de bois, vous trouvez que ça va mieux, vous trouvez que ça va bien?
Moi, en général?
Ouais. Répondez pas. Lundi, le patron du PS, Jean-Christophe Cambadélis, donnait une conférence de presse et il parlait de la situation du pays. Je précise que je n'ai pas touché la vitesse de défilement de la bande.
Ce que nous pouvons dire, c'est que tout n'est pas parfait, mais tout n'est pas mauvais. Et nous nous...
Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je m'entends plus dans mon casque. Ça veut dire quoi, nous nous un? Est-ce que nous nous imposons? Nous nous inversons? Nous nous infiltrons? On écoute Cambadélis.
Et nous nous inscrivons en contradiction entre ceux ou contre ceux qui...
Alors, j'arrête là.
Non,
on est totalement
combien de temps comme
dans
ça
la langue de bois. 10, 12, 15 minutes. Oh. On est totalement dans la langue de bois, dans les éléments de langage. C'est assez extraordinaire, non?
Ah ouais.
J'avais jamais entendu
c'est
ça.
C'est un monument.
Ça demande des trésors d'intelligence, faire diversion, répondre sans répondre, tout en répondant. Et là, je vais faire un peu d'histoire. Un expert en la matière, Bernard Tapie, invité de Patrick Cohen sur France Inter. C'était en septembre 2013. La justice venait de décider qu'il allait toucher 403 millions dans ce qui est devenu l'affaire de l'arbitrage du Crédit Lyonnais. Question simple.
Bon, la question c'est simple. Avez-vous reçu le chèque du fisc correspondant à l'arbitrage
obsédé,
rendu
hein.
en votre faveur dans
vous
l'affaire Adidas?
Vous êtes obsédé. Hein. Ah ben il y a non. un problème. Hein. Bon, vous avez tous un vrai problème. Avec le... Vous ne gagnez pas votre vie ou vous avez quelque chose? Qu'est-ce que vous avez à être obsédé avec cet argent?
C'est pas
qu'est-ce...
de l'obsession,
qu'est-ce que c'est que
de l'argent.
Obsession.
Alors Patrick Cohen ne demande pas si l'arbitrage est une bonne décision, il ne demande pas ce qu'il va faire de l'argent, non, il demande simplement si oui ou non il a reçu le chèque, pas de réponse. C'est comme si je vous demandais, Sonia, si vous avez dîné hier soir. Je ne vous demande pas avec qui, je ne vous demande pas le menu. Je pose une question simple. Alors vous allez me dire, l'argent est un sujet tabou, certes, mais ce n'est pas une raison pour prendre les gens pour des idiots complets. Par exemple, dans l'émission Cash Investigation de France 2, un reporter croise Patrick Balkany à un match de basket.
Bonjour Monsieur Balkany, Benoît Bringer, je suis journaliste pour France 2. Je me permets juste de venir vous poser une petite question, si vous avez 5 minutes, là, le temps de la mi-temps.
Vous êtes journaliste sportif ?
Non, je suis journaliste pour Cash Investigation. C'est une question assez simple, savoir si vous avez demandé à monsieur Jean-Pierre Aubry d'être votre prénom dans l'affaire de la villa de Marrakech pour la société A-Ridge.
Je sais même pas de quoi vous me parlez.
Il sait même pas de quoi on lui parle, alors que c'est dans tous les journaux. Même le Figaro a parlé de sa villa à Marrakech. Alors moi, j'accuse personne, je fais pas ici une chronique sur la justice, je parle simplement de médias. Mon premier boulot de jeune journaliste, c'était avant Internet, c'était dans un mensuel qui, hélas, n'existe plus, qui s'appelle Actuel, fondé par Jean-François Bizot, qui a aussi fondé
sur du papier.
Radio Nova, exactement. Et il m'avait enseigné, nous tous, un principe simple qui fonctionne aussi bien dans le journalisme que dans la vraie vie avec les vrais gens. Quand quelqu'un, disait-il, n'arrive pas à répondre simplement à une question simple, c'est qu'il y a un problème. Illustration avec Laurent Wauquiez qui bute sur une question de Jean-Jacques Bourdin sur RMC. À l'époque, Wauquiez faisait partie de l'UMP dont le président était Jean-François Copé. La question était pourtant du niveau maternel, genre « tu l'aimes bien ta maîtresse ?»
Parce que Jean-François Copé est un bon président de l'UMP.
On essaye tous de faire le meilleur travail qu'on peut faire.
Oui, ça, bravo. Ça, ah, évidemment. Oui, moi aussi, tout le monde. On essaie tous de faire le meilleur travail qu'on peut faire.
Est-ce que tous les journalistes sont des bons, monsieur Bourdin ?
Non, il y a des journalistes mauvais, des journalistes bons.
Très bien.
Est-ce
et bien en politique, c'est pareil.
C'est un bon président de l'UMP.
Je crois que c'est un président de l'UMP qui essaye de se consacrer à sa tâche.
Alors, je crois, il est même pas sûr que c'est un président de l'UMP qui essaye, c'est-à-dire qui essaye seulement de se consacrer à sa tâche. Et je trouve que Bourdin a tort de s'énerver, parce que là, pour une fois, la réponse est dans la non-réponse. Le type qui arrive pas à répondre simplement à une question simple. Et puis alors, Sonia, juste pour le plaisir, on réécoute Jean-Christophe Cambadélis.
Et nous nous inscrivons en...
Voilà, et je vous invite à réfléchir.
La langue de bois, la langue de bois, pour dire qu'on triche avec les mots, pour dire qu'on ment et de surcroît qu'on insulte aussi les ormeaux. Faut-il que l'homme soit macabre pour blasphémer la langue d'arbre? La langue du bois, la langue du bois. La langue de bois, la langue de bois, pour désigner paroles vaines, c'est insulter ma fibre à moi, la sève vivant dans mes veines. Jactez, beaux messieurs, sans remords, vous ne valez pas un sycomore. La langue du bois. Les arbres parlent plusieurs langues, selon les sens, le ciel, l'endroit. Le bois de l'un prononce mangue, le bois de l'autre dicte la noix. La langue du bois. La langue du bois. Et quand ses branches se déchaînent, quoi de plus beau qu'un bois des
Yema. Honey, I did. Yema.
des arbres. Aux quatre bouts de moi, finis comme du marbre, et de toutes mes feuilles dont je connais le poids, des branches aux racines, de la basse à la cime, je chante ma langue de bois, perché sur du racine.
Tout à fait. Bonsoir Mouloud, bonsoir à tous. On parle de Rachida Dati, qui a été investie candidate officielle des Républicains pour les municipales à Paris. Elle était l'invitée ce matin de Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV. Alors il n'a pas manqué de lui poser quelques questions délicates, dont celle-ci.
Vous êtes foncièrement anti-Emmanuel Macron ?
Non, mais j'ai quoi cette question ?
Non, je vous pose cette question parce que est-ce que vous pourriez à un moment donné ou un autre passer un accord avec Benjamin Griveaux ou avec Cédric Villani ? Ça serait possible ou pas ?
Alors, c'est une question compliquée pour Rachida Dati parce que si elle répond « oui, je pourrais passer une alliance avec Benjamin Griveaux », elle risque de s'aliéner tous ses électeurs qui pourraient être anti-macronistes. Si elle répond « non, je n'envisage pas d'alliance », elle risque de mettre en péril un accord éventuel au second tour. Donc, elle ne peut répondre ni oui ni non. Dans ce cas-là, en politique, qu'est-ce qu'on fait ? On fait de la langue de bois. Alors la langue de bois, il y a plein de manières de la définir, mais l'une des manières simples, c'est de dire que c'est l'ensemble des procédés qui permettent justement de ne pas répondre à une question qu'on vous pose. En pratique, à quoi ça ressemble ? À ceci.
Ce serait possible ou pas ?
Monsieur Bourdin, moi je vous écoute très tôt et vous le savez. Oui. J'écoute les auditeurs. Ce que j'aime...
Ils s'en moquent.
Non mais ce que j'aime dans votre manière de pratiquer votre journalisme, certains vous critiquent là-dessus, moi je trouve que ça me correspond. Pardon de vous le dire comme ça. Pourquoi ? Parce que vous laissez la parole libre, comme vous le disiez encore hier, dans le cadre de la loi. Les gens s'expriment. Et ils sont dans une liberté. Les gens aiment... l'authenticité, la vérité, chacun a sa vérité. Ils aiment votre sincérité et vos convictions.
Alors, ici ce que fait Rachida Dati, ça porte un nom assez simple, on appelle ça très concrètement un appel à la flatterie. Alors ça a deux utilités, pourquoi elle fait ça ? D'abord parce qu'il y a toujours une petite chance de parvenir à amadouer celui qui vous pose les questions, ce qui permet de décourager une éventuelle deuxième relance. En l'occurrence, elle a en face d'elle Jean-Jacques Bourdin, ça a peu de chances d'arriver, mais c'est pas grave. Parce que Rachida Dati vient malgré tout de s'offrir 30 secondes. 30 secondes, c'est énorme. Déjà, ça lui permet de réfléchir à sa réponse. Et puis, 30 secondes, c'est plus important encore. Parce que 30 secondes, c'est précisément la durée de notre mémoire à court terme. Et ça, c'est quelque chose qui a bien été mis en évidence par les recherches en neuropsychologie qui suggèrent que notre capacité à retenir et réutiliser des informations exactes que l'on reçoit dans une discussion s'étend en moyenne de 15 à 20 à 30 secondes selon les individus. C'est même pire que ça. Au-delà de la deuxième seconde, les informations commencent déjà à se dégrader dans notre mémoire. Autrement dit, en retardant sa réponse, Rachida Dati, elle ne s'offre pas seulement du temps de réflexion, elle fait en sorte que nous ayons déjà commencé à oublier la question qui lui était posée. Et donc, elle peut répondre ceci.
Ils aiment votre sincérité et vos convictions. Donc, moi, certains, effectivement, font de la tambouille. Certains se repeignent. C'est-à-dire que certains disent on fait de l'ouverture, et en fait, ils font pas du tout d'ouverture. Ils disent qu'on renouvelle, ils renouvellent pas. Ils changent juste d'étiquette. On passe de RPR à l'UMP, de l'UMP à LR et de LR à En Marche. Vous croyez que c'est ça la politique ? C'est ça qui vous donne envie de faire de la politique ?
Alors voilà, là on a maintenant la réponse de fond de Rachida Dati. Elle condamne les responsables politiques qui passent d'un parti à l'autre. Pourquoi pas ? C'est très intéressant. Le problème, c'est que ça n'a plus rien à voir avec la question qui lui était posée, puisque la question portait précisément sur ses stratégies d'alliance. Alors là, ce qu'elle vient de faire, c'est encore une autre tactique de langue de bois. On appelle ça de la diversion. C'est connu depuis très longtemps, depuis le 19e siècle en réalité, puisque déjà dans l'ouvrage d'Arthur Schopenhauer, L'art d'avoir toujours raison, c'est le stratagème 29. Lorsque l'on se rend compte que l'on va être battu, on peut faire une diversion, c'est-à-dire commencer à parler de quelque chose de complètement différent. Si on résume, on a de la flatterie, du gain de temps, de la diversion. Ce sont là trois tactiques classiques, bien éprouvées, de langue de bois. Alors, ici, il faut être honnête. Rachida Dati, elle utilise certes une esquive, mais elle esquive une question, la question des alliances, qui en réalité se pose surtout au deuxième tour et qui donc aujourd'hui se pose pas vraiment. Donc sa réponse, on peut la trouver agaçante, on peut la trouver éventuellement ridicule, mais elle n'est pas totalement illégitime. En revanche, les stratégies qu'on vient de voir, elles servent aussi pour esquiver des questions qui, elles, sont légitimes, importantes en démocratie. Et dans ce cas, c'est à nous, citoyens, de rester vigilants et de nous souvenir que les questions importantes appellent de véritables réponses.
Merci.
Trouble. We don't have victories anymore. We used to have victories, but we don't have them. When was the last time anybody saw us beating, let's say, China in a trade deal? They kill us. I beat China all the time. All the time.
Est-ce que vous entendez le murmure du printemps? C'est le bruit d'une page de la vie politique qui est en train de se tourner, que vous allez tourner. Est-ce que vous sentez la puissance de ce rassemblement ? C'est la force de notre indignation face à ce qui a trop duré.
Alors, on va revenir séparément et spécifiquement sur les mots de Trump et les mots d'Emmanuel Macron. Mais pour commencer, Cécile Alduy, est-ce qu'on peut dire que ce sont deux registres de paroles qui sont très différents l'un de l'autre ?
Antithétiques même. C'est très frappant dans ces extraits. D'un côté, le lyrisme presque poétique et aussi un peu télé-évangéliste d'Emmanuel Macron, qui parle du murmure du printemps, de notre indignation, donc qui inclut son auditoire dans cette parole du « nous ». Et de l'autre, au contraire, la syntaxe extrêmement simpliste, le vocabulaire extrêmement pauvre de Donald Trump, qui est dans une posture guerrière. On gagne ou on perd, on les bat, on est victorieux, c'est d'un simplisme absolu, alors que Emmanuel Macron est réputé maintenant pour sa complexité d'esprit, qu'elle soit jouée ou non.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on n'a même pas pris la peine de traduire les propos de Donald Trump, parce qu'on s'est dit que même sans maîtriser très bien l'anglais, ce qui est par exemple mon cas, on comprend toujours ce que dit Donald Trump. Là, il parle de la Chine. Cette langue pauvre qu'on décrivait justement et qu'on critiquait beaucoup lorsqu'il était en campagne, est-ce qu'elle s'est quand même un peu enrichi, vous qui vivez une grande partie de l'année aux États-Unis, au bout d'un an de pouvoir, ou bien est-ce qu'on est toujours au même niveau de pauvreté, disons ?
Ah non, il n'y a aucun enrichissement, c'est hallucinant, je dirais, parce qu'au jour le jour, il y a à la fois les modes de communication utilisés qui sont essentiellement Twitter et le contenu de cette communication qui sont des messages extrêmement succincts, simplistes et d'une pauvreté de vocabulaire remarquable pour un président des États-Unis. Tout ça, ça n'a pas évolué. Et c'est en opposition avec tout ce qu'on a connu et même avec le statut de président des États-Unis qui implique une certaine éloquence, un certain protocole cérémonieux. Donc le candidat Trump ne s'est pas transformé en président Trump. Il est resté le candidat. D'ailleurs, il s'adresse essentiellement à sa base plutôt qu'à tous les Américains. Il a continué à être extrêmement clivant et agressif par rapport à ses adversaires politiques, alors que inversement, Emmanuel Macron a essayé de rassembler pendant la campagne, mais dès qu'il a été président, il a changé d'attitude et de posture et de langage.
S'agissant de Donald Trump, vous évoquiez son usage, qui est un usage assez compulsif, hein, de Twitter. Est-ce qu'on peut dire que ce réseau social-là, sur lequel on doit s'exprimer, enfin, on devait s'exprimer jusqu'à présent, 140 caractères, là, il y a un petit peu plus d'espace possible désormais, mais est-ce que c'est un espace qui est particulièrement adapté, justement, à la pensée de Donald Trump, ou bien est-ce qu'il faut prendre le problème à l'inverse, c'est de se dire que c'est peut-être son usage qui a fini par modeler sa façon de penser.
Je crois qu'il pensait et s'exprimait de la même façon avant même l'apparition de Twitter. Il a une longue histoire derrière lui à la télévision. Son grand slogan, c'est « You are fired » avant d'être président des États-Unis.
Vous êtes viré.
Voilà, vous êtes viré. Et donc, il a toujours été dans cette élocution très morcelée, avec des phrases extrêmement courtes, sujet, verbe, complément, beaucoup d'adjectifs. Donc, c'est toujours des jugements sur les gens qui sont soit bons, soit méchants, hein, pour simplifier. Enfin, je simplifie pas beaucoup les choses, malheureusement. Donc, Twitter, en fait, est totalement adapté à la forme d'expression idiosyncratique de Donald Trump plutôt que l'inverse, un médium qui aurait modelé sa langue. Et inversement, d'ailleurs, Emmanuel Macron n'utilise pas Twitter parce qu'il est dans cette posture de la pensée complexe où, pour tenir ensemble des opposés, des antithèses, il faut pouvoir développer pour justifier ce syncrétisme.
Cette façon très directe qu'a le président américain Cécile Alduy de s'exprimer, est-ce que c'est fait au nom d'une, comment dire, d'un rejet de la langue de bois? Mais je ne sais pas d'ailleurs si c'est un concept qui existe, alors peut-être traduit différemment, mais aux États-Unis.
Alors en fait, c'est pas tellement la langue de bois que Donald Trump fustige en général, mais la corruption. The Swamp, le marais de Washington. Et dans l'imaginaire subliminalement, il y a cette association entre une langue un peu éthérée, déconnectée des réalités, et à l'inverse, un langage très cru, très direct, très grossier d'ailleurs parfois, qui serait le reflet mimétique d'une prise directe sur le réel en même temps. Mais je pense que...
Et aussi
que
une façon de parler comme il imagine que les gens parlent.
Exactement. Mais le fait est que quand on voit des reportages, des interviews du fan club, de Trump, et il est très très nombreux, les gens sont ravis que Trump parle comme ça, qu'il parle comme eux, c'est comme ça qu'il s'exprime, et surtout qu'il y ait cette idée de transgresser le discours officiel qui doit être poli, courtois, politiquement correct. Donc c'est pas tant la langue de bois en tant que discours politique dont on ne comprend pas le contenu tellement il est éthéré, plutôt que le politiquement correct qu'il faut transgresser. Donc un langage agressif qui désigne des bons et des méchants plutôt de rassembler, c'est ça qu'incarne Donald Trump.
Alors vous l'avez dit, hein, s'agissant d'Emmanuel Macron, contrairement à Donald Trump, il n'y a pas eu forcément de continuité dans la façon de s'exprimer, mais plutôt une rupture entre le moment où il est en campagne et il s'adresse aux électeurs, et le moment où il devient président et où il s'adresse aux Français. Est-ce que du coup, dans l'utilisation de son vocabulaire, ça change quelque chose? Ou bien oui, on retrouve quand même des mots identiques?
Alors on retrouve bien sûr à la fois des thèmes et des mots de l'un à l'autre, notamment cette bienveillance qui continue à revenir, la synthèse fondamentale liberté et protection qui devient un élément de langage de l'administration Macron. Mais la différence, c'est la mise en scène du discours. C'est-à-dire qu'en tant que candidat, ce qui était la grande nouveauté de Macron, c'est de pas avancer des valeurs, ni même un programme, mais une émotion collective. De fabriquer du collectif par l'émotion, par la création d'un « nous » dans lequel il s'incluait constamment, alors qu'en tant que président, avec cette présidence jupitérienne, il parle au nom de la France, parfois en son nom propre, mais il ne s'inclut plus dans le peuple français et il n'essaie plus de s'adresser à ses émotions, à son ressenti. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, il a parlé de « vous sentez notre indignation ». On est dans le registre émotionnel, affectif, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, il y a davantage de complexité dans ses propos et est-ce que ça en fait une parole complexe, c'est-à-dire peut-être aussi plus compliquée à comprendre?
Oui, enfin, il avait déjà une pensée assez, enfin, complexe au
il
sens.
Il a une pensée complexe.
Complexe au sens littéral du mot, c'est-à-dire qui imbrique des éléments distincts dans une construction qui n'est pas simple. Donc, Trump, c'est la simplicité, c'est l'un ou l'autre. Macron, c'est et l'un et l'autre dans beaucoup de domaines. Donc, c'est une construction plus complexe. Mais en tant que président, ce qui me frappe, c'est surtout qu'il a des discours qui essaient d'inscrire dans l'histoire des visions d'un projet France ou d'un projet Europe, alors qu'en tant que candidat, il jouait beaucoup plus sur le ressenti, l'émotionnel, plutôt que l'inscription dans une histoire de France. Donc là, en tant que président, il essaie d'incarner à la fois une continuité historique et une projection dans le futur. Donc c'est beaucoup de récits qu'il essaie de mettre en place, plutôt que des détails, par exemple, de sa politique économique. Il le laisse au ministre.
Françaises, Français, chers Gaulois réfractaires, voici une nouvelle allocution en pleine crise sanitaire. C'est la 9e fois en 2 ans que je prends la parole sans que me soit décompté le moindre temps de parole. Je me suis dit que ça vous plairait d'avoir un président qui slame. C'est vrai que ça change de tous ces gens qui parlent que d'islam. Mon flow à moi est sans égal, à vous, tu kiffes mon son, mais c'est fini, grand corps malade. Maintenant, c'est grand corps Macron. Si j'ai la voix grave, croyez pas que c'est que j'ai trouvé du bon shit. Pour vous dire la vérité, c'est juste que je sors d'une bronchite. Ouais, j'ai mué. Les temps ont bien changé depuis l'époque où je criais comme un ado. C'est mon projet! T'as cru que c'était la teuf? Eh, c'est la pandémie, gros. Alors que le variant Omicron sévit, moi je me mets au micro pour vous dire de vous vacciner. Une 3e injection s'impose pour vous sauver désormais. Je vois la vie en dose. Refrain.
You are the only one.
Ouais, je suis le seul.
You are the only one.
On a mis un truc en anglais
you
au milieu.
You are the only one.
Exactement. Influenceur et président, je sais parler la langue des jeunes. Siva, t'as vu comment je suis trop stylé, cool, fun. Comme je le disais dans ma dernière vidéo sur TikTok, mon quinquennat, il est parfait, ouais mon bilan, il est tip-top. Alors je ressors une à une mes antiennes ultra-libérales, tous ces trucs qui font qu'en une, chaque matin, libéral. L'avenir appartient à ceux qui quittent leur litho et à ceux qui font des feats avec McFly et Carlito. C'est moi le nouveau Jedi des centrales EPR hors de prix. Dans les couloirs, j'entends qu'on me surnomme l'Obi-Wan des lobbies. S'il se mettait à éditer un journal chez EDF, c'est sûr qu'il me proposerait d'être leur rédacteur en chef. Comme il paraît que pour gagner, faut séduire les chasseurs, j'ai décidé d'ouvrir la chasse aux chômeurs. Pour les remettre au turbin, j'ai des idées à l'appel. Moi qui ai supprimé l'ISF et baissé l'APL. Faut arrêter les allocs, l'assistana moyenâgeux. Ne pas oublier en rentrant d'acheter 2 douzaines d'œufs, 3 briques de lait pour faire des crêpes et 2 mottes de beurre. Attendez, c'est qui l'abruti qui a écrit ça sur mon prompteur? Refrain.
Comme... You are the only
one. Mais si tu mets ta liste de courses sur mon prompteur, ce... Hey, mais comment tu veux que je fasse mon alloc là? Mon allocution. Merci Brigitte. Faut arrêter les allocs, l'assistana moyenâgeux. Hors de question que ma politique finance la française des gueux. Le fric, il faut qu'on le file aux banques, c'est élémentaire. En continuant d'alimenter les fils des banques alimentaires. Mais j'ai du cœur, ouais, j'ai décidé de battre en retraite. De laisser à mon successeur la réforme des retraites. Ça me fait rire de dire successeur, car dans l'idée, j'ai la pas trop secrète intention de m'auto-succéder. Avouez que c'est humain. Et si le matin à l'Élysée, on vous donne des sondages à lire, eh ben vous les lisez. À gauche, ils sont 10 000. À droite, Zemmour tient la gamelle. J'ai l'impression que je suis pile entre les Schtroumpfs et Gargamel. Moi j'agis et je soutiens les chalutiers dans leur malheur. Toute la journée de mes 2 mains, je prie pour vous, pauvres pêcheurs. Et puis je vous jure qu'il n'y aura plus de féminicide bientôt. Je le jure sur le féminisme de Nicolas Hulot. Mes chères Françaises, mes chers Français, pour finir cette allocution, je voulais simplement vous rappeler qu'en avril, bah, il y a élection. Et que même si je suis pas encore officiellement candidat, je croise les doigts que mes électeurs, eux, n'auront pas d'extinction de voix. Je pourrais continuer longtemps à faire des bons calembours, mais je sens que vous vous dites, il commence à être lourd. Alors je vous laisse, je vais prendre mes pastilles pour les cordes vocales. Jean Castex, à demain. Et Gabriel, à Tal.
Il y a aussi quelque chose qui me semble assez frappant, Cécile Alduit, dans la façon dont s'exprime Emmanuel Macron. C'est une apparente contradiction, mais vous allez nous dire si c'en est une, dans les registres de vocabulaire différents qu'il peut utiliser. Alors, il y a à la fois l'usage de mots assez désuets, on en a noté quelques-uns, galimatia, chicaïa, croquignolesque, poudre de perlimpinpin. Des mots qui sont peut-être rares dans le discours politique, mais qui sont des mots anciens. Et puis, à la fois, dans certaines expressions publiques, un langage très familier. Le meilleur moyen de se payer un costard, c'est de travailler. Dernièrement, en Algérie, il y a quelqu'un qui l'a interpellé sur la responsabilité de la France dans la colonisation. Vous n'avez jamais connu la colonisation. Qu'est-ce que vous venez m'embrouiller avec ça? Et puis, le fameux, il y en a certains, au lieu de foutre le bordel, il ferait mieux d'aller regarder s'ils peuvent avoir les postes. Ça, c'était lors d'une visite dans le centre de la France. Est-ce que c'est un double registre qui vous paraît cohérent ou bien qui marque certaines contradictions? Mais c'est peut-être une traduction du « en même temps-misme » dans le discours d'Emmanuel Macron.
Je crois que surtout, c'est que ce sont des contextes d'élocution différents. Il y a les grands discours qui prennent des semaines à écrire et où vraiment c'est faire œuvre pratiquement. C'est de l'écriture pour des anthologies futures. Où là, on fait attention à chaque mot, on pèse les harmonies du discours, etc. Et puis après, la parole plus ou moins spontanée et générationnellement beaucoup plus neuve d'Emmanuel Macron, qui parle comme quelqu'un de 39 ans et qui, dans l'interlocution avec des gens sur le terrain, se laisse aller. Et là, la question, c'est est-ce que c'est intentionnel ou pas, à être dans un registre beaucoup plus familier et proche des gens. Moi, je pense que ce qui est plus intéressant, c'est peut-être de se poser la question si toutes ces écarts de langage qui lui ont été reprochés, comme aussi les fainéants, ces gens qui ne sont rien, sur les quais de la gare, etc., si c'est l'inconscient de classe qui parle, parce que c'est souvent des formules assez violentes sur une catégorie de la population, alors qu'il privilégie d'autres catégories comme les entrepreneurs, les start-upers, etc. Ou si c'est simplement des moments d'énervement et donc de non-maîtrise de la communication.
On pourrait aussi peut-être y voir une forme de stratégie, c'est-à-dire d'idée que pour se rendre accessible, il faut aussi avoir une parole qui soit le plus communément admise. Alors, je rappelle le thème de notre discussion aujourd'hui, Cécile Alduy, parle les vrais et langues de bois, même combat. Et pour élargir peut-être justement la réflexion au-delà des seuls Donald Trump et Emmanuel Macron, mais est-ce qu'on peut se dire justement qu'à travers le renouvellement et du langage politique et du registre de langage, il y a aussi une forme de défaite des partis politiques traditionnels et du système classique de représentation, et qu'il y a l'idée aussi de s'adresser en fait directement au peuple plutôt que de passer par des intermédiaires.
Oui, en tout cas, il y a une corrélation temporelle entre cette perte de vitesse des partis traditionnels qui assurent la médiation entre les électeurs et le pouvoir et la tendance populiste qui a marqué à la fois les élections américaines et les élections françaises cette année, avec des leaders politiques qui s'émancipent des partis, Macron, Mélenchon, Trump, qui n'est dans aucun parti, et qui se met en scène dans cette posture de s'adresser directement au peuple. Bien sûr, ils s'appuient tous sur des organisations extrêmement structurées, cependant. Je pense que ce qui est intéressant ici, c'est que c'est pas tellement les écarts de langage qui vont faire peuple, c'est plutôt le mode de communication au public. Donc tout ça, c'est de la mise en récit de soi. Donc c'est une manière de se mettre en scène comme un acteur issu du peuple, qui pense comme le peuple, qui le représente.
C'est quelque chose qu'avaient perdu les partis traditionnels, qu'avaient peut-être adopté et des techniques et un langage un peu technocratique.
Tout à fait, absolument, qui se sont polissés dans leur langage, qui se sont aussi notabilisés dans leur éventail sociologique. Hein. C'est plus des ouvriers qui sont élus députés aujourd'hui. Hein. Ça, je crois qu'il y a seulement un ouvrier aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Donc il y a des langages de classe sociale aussi qui ne sont plus représentés dans les partis traditionnels. Et lorsque des leaders charismatiques qui plus est parlent un peu comme tout le monde, s'émancipent des codes de la bienséance, eh bien ça fait peuple.
Le président a déclaré la mort du peuple ce matin. Il a failli nous faire pleurer. Il avait tellement de chagrin. Le premier ministre agacé nous a dit qu'il faudrait s'y faire. Il était tellement affolé qu'il a mis sa veste à l'envers. Rester le cul par terre. Et puis on a regardé en l'air. Au-dessus des maisons, le soleil et ses rayons. Au-dessus des maisons. On
on était presque moins que rien. Alors on a regardé au loin.
Je m'aperçois. On fabriquait 3 200 000 automobiles sur le territoire français en 2004. On a fabriqué plus que 2 100 000 en 2007. L'année où je suis devenu président. Vous avez vu la querelle, soi-disant je suis protectionniste. Je ne suis pas protectionniste, mais je n'ai pas été élu pour qu'on fabrique plus de voitures en France. Il ne faut pas renoncer. On a choisi une stratégie économique, il faut la tenir. Et pas faire comme d'habitude en France tous les 6 mois à changer de stratégie ou de système de jeu pour rendre l'image du foot. Tellement ils croient peu dans leurs convictions. Moi, je crois dans mes convictions. Alors, s'il y en a qui ça les démange d'augmenter les impôts, ils oublient qu'on est dans une compétition. Et mon but, c'est de faire venir en France, faire investir en France des gens qui ont de l'argent dans nos usines et dans nos entreprises. C'est pas de les faire partir.
Cécile Alduy, est-ce qu'on pourrait dire que Nicolas Sarkozy, il illustre bien cette confusion que vous évoquiez sur la notion de parler vrai, c'est-à-dire que le parler vrai. Au départ, en tout cas en France, c'était beaucoup Michel Rocard, par exemple, qui était censé incarner ça. C'est-à-dire, on dit la vérité, dit même si la vérité est désagréable. Et là, un parler vrai qui serait parler comme le peuple, parler comme les gens à qui on s'adresse. En tout cas, comment on imagine que voilà. Ces gens parlent.
Oui, alors, la grammaire de Nicolas Sarkozy a fait couler beaucoup d'encre parce qu'elle était... assez retorse, on va dire. Nicolas Sarkozy sait aussi très bien s'exprimer. Donc, il y a toujours une mise en scène... des écarts de langage, ici des écarts grammaticaux. Quand il dit « qu'est-ce que je m'aperçois ?», c'est tout de même une phrase qui interroge sur le niveau d'éducation de Nicolas Sarkozy. Mais l'idée, c'est que transgresser, que ce soit la grammaire, les normes du vocabulaire, ou même des codes comme « casse-toi pauvre con » qu'il avait aussi lancé dans, je crois que c'est un salon de l'agriculture, ce serait un signe intrinsèque de sincérité, d'authenticité et donc de proximité avec les Français, on va dire avec le français moyen. Or, à chaque fois, ce dont on fait l'impasse, c'est le contenu, à la fois politique et idéologique, de ce qui est exprimé. On se focalise sur la forme, comme si ça, la forme elle-même était un gage de sincérité, alors que cette forme, elle continue à véhiculer le même contenu que celui du Sarkozy 2005, que celui du Chirac 2002, etc., etc.
Et est-ce que du coup, on pourrait voir dans cette approche du parler vrai ou d'un parler vrai un nouveau standard finalement de la langue de bois?
Oui, absolument. C'est-à-dire que tout le monde se réclame de se parler vrai. François Fillon a fait la même chose pendant sa campagne, c'était dire les choses. D'ailleurs, un peu plus proche du parler vrai de Michel Rocard, on va dire les choses même si ça fait peur, même si c'est dramatique.
Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui Laurent
Wauquiez reprend même l'expression de Jean-Marie Le Pen, je dis tout haut ce que les Français pensent tout bas. Donc en fait, la boucle est bouclée. C'est-à-dire qu'au départ, le parler vrai, c'était aussi l'extrême droite en disant nous, on est vraiment du peuple et on dit les choses, notamment sur l'immigration. Donc ce côté transgression des codes de la morale aussi, de ce que eux appellent la bien-pensance. Et maintenant, dire des choses qui sont à la limite... soit de la discrimination, soit de la xénophobie, etc., ce serait un gage d'authenticité.
Mais peut-être que c'est sa façon réelle de parler à Laurent Wauquiez. Vous qui l'avez
côtoyé. Je l'ai côtoyé, oui.
Ah, c'est ça, voilà, j'ai appris ça en préparant l'émission. Lorsque vous étiez au lycée, c'est ça, hein?
Oui, tout à fait. On était au lycée, et puis après, normal, je suis ensemble. Donc, c'est quelqu'un qui a des lettres, de très bonnes lettres même, qui s'est rédigé des dissertations prolixes et très bien écrites. Non, il y a un effort de désembourgeoisement de la langue de la part de Laurent Wauquiez, et ça, beaucoup de gens le reconnaissent dans son entourage. Mais c'est la même chose, Marine Le Pen a fait de très bonnes études également, et elle essaie aussi d'avoir un parler très populaire. Jean-Luc Mélenchon, c'est la même chose, c'est quelqu'un qui était prof, je crois, de philosophie ou de littérature, je ne me rappelle plus. Donc, il y a une stratégie de communication, en fait, dans le choix du registre et même de la grammaire qu'on utilise.
En relisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait deux. C'est toi que j'aime, ne prends qu'un aime, par-dessus tout. Ne me dis point, il en manque un, que tu t'en fous. Je t'en supplie, point sur lui, fais-moi confiance. Je suis l'esclave, sans accent grave, des apparences. C'est ridicule, c'est majuscule, c'était si bien. Tout ça m'affecte,
ça c'est correct,
au plus haut point. Si tu renonces, comme ça se prononce, à m'écouter, avec la vie,
comme ça s'écrit,
j'en finirai. Pour me garder,
ne prends qu'un dé,
tant de rancune. T'as pas de cœur, y a pas d'erreur,
là y en a une.
J'en mourirai, n'est pas français. Ne comprends-tu pas? Ça sera ta faute, ça sera ta faute.
Là, il n'y en a pas.
Moi, je te signale que Gardénal ne prend pas deux, mais n'en prend qu'un, caché au moins, n'en prend pas deux. Ça te calmera et tu verras, tour ton ballot. Le cafard, les pleurs, les peines de cœur, au E dans l'eau.
L'historien Jean Garrigue qui publie une compilation des grands discours parlementaires de Mirabeau à nos jours. Avec, quand on regarde ces discours, hein, on a toujours l'impression qu'on a eu affaire à un âge d'or justement dans l'éloquence, dans la complexité du vocabulaire. Est-ce qu'on pourrait dire justement qu'aujourd'hui ce désembourgeoisement de la langue dont vous parlez, Cécile Alduy, c'est un phénomène, c'est général. Est-ce qu'on a les moyens déjà aussi peut-être de, comment dire, d'évaluer de manière à peu près scientifique, disons justement, cet appauvrissement de la langue?
On peut, oui, absolument. Bah, c'est pour ça que récupérer énormément de discours pour faire des analyses statistiques, ce que j'avais fait dans mon livre, ça permet de relever des tendances, surtout quand on fait ça sur le moyen ou le long terme. En fait, ça permet aussi de voir entre les candidats ou les personnalités politiques des différences. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon continue d'avoir un discours extrêmement riche du point de vue lexical. C'est une très grande richesse, alors que inversement, Marine Le Pen est celle qui a un des discours les plus pauvres du point de vue du vocabulaire, car c'est un discours extrêmement répétitif. Donc on peut mesurer ça. Après, c'est vrai qu'il faudrait collecter des corpus qui aillent plus loin dans le temps en arrière pour vraiment mesurer cette évolution. Mais je pense que c'est pas tant simplement la pauvreté lexicale, c'est-à-dire le fait de répéter toujours les mêmes mots, que la forme du discours, c'est-à-dire l'éloquence des phrases, l'éloquence, la construction des discours, le lyrisme, l'appel à des grandes valeurs, à des grands mouvements historiques. On est plus dans les petites phrases aujourd'hui, plutôt que dans du discours qui est une construction de longue haleine.
Alors du coup, justement, si on est plus dans les petites phrases, est-ce que ce sont seulement les politiques qui sont responsables de cette tendance-là, ou bien est-ce que ceux qui les interviewent n'ont pas également une part de responsabilité? Bonjour Antoine Ulster.
Bonjour.
Vous avez justement choisi de poser la question à un journaliste politique qui a réfléchi à cette question. Il s'agit de Thomas Legrand, notre confrère de France Inter.
Oui, Thomas Legrand qui avait signé il y a quelques années un article d'autocritique sur la pratique journalistique, ce qui est plutôt rare. Un article intitulé « Les langues de bois journalistique et politique se nourrissent l'une l'autre ». Alors je vais demander ce qu'il entendait par langue de bois journalistique et comment combattre ces réflexes de langage et les mots creux quand on est au quotidien journaliste politique.
La langue de bois du commentaire politique n'est pas le fait spécialement de reprendre des éléments de langage des hommes politiques. C'est simplement d'avoir une sorte de vocabulaire stéréotypé qui fait que on entend une demi-phrase et on sait qu'on est dans le commentaire politique, même dans le ton. Vous savez, vous entendez une demi-phrase avec trois mots simplement et vous savez que vous êtes dans le langage sportif ou dans le langage économique, sans comprendre le sens. Simplement, il y a une musique thématique. Et c'est ça, en fait, à mon avis, qui stéréotype le débat en France et qui fait que on perd aussi en intérêt du débat et qu'on perd en crédibilité auprès du public. On est obligé de parler tout le temps et du coup on se vautre dans un langage qui ne dit pas grand chose. Comment on combat ça? Et ben moi par exemple, je le combats en ne lisant pas les commentaires politiques. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on me demande? C'est de commenter ce que disent les hommes politiques et ce qu'ils font, comparer ce qu'ils disent avec ce qu'ils ont dit avant, ce qu'ils disent avec ce qu'ils font, et puis essayer de voir d'où ça vient. Il n'y a pas de génération spontanée en politique. Essayer d'aller voir dans l'histoire, essayer de mettre le doigt sur des contradictions entre des dires et des faits, entre les mots et les choses. Et pour ça, on n'a pas besoin finalement d'aller voir ce que disent les autres. On peut le regarder après. Donc avant de faire un édito sur quelque chose, eh bien, je ne regarde pas les autres éditos qui sont faits là-dessus. J'essaye de m'extraire et j'essaye de participer le moins possible à des émissions sur les chaînes Tout Info. D'abord, nos auditeurs aiment pas ça. À France Culture ou à France Inter, ils aiment pas trop nous voir sur les chaînes Tout Info. Ils sont un peu exclusifs et c'est pas mal. Faut pas rentrer dans ce robinet d'eau tiède.
Voilà, Thomas Legrand, éditorialiste politique sur France Inter. On peut retrouver son article sur les langues de bois journalistiques et politiques dans le numéro 58 de la revue Hermès et en accès libre sur le portail Cairn.
Et dans l'action, Cécile Alduy?
Oui, en fait, ce que souligne Thomas Legrand, c'est que les éditorialistes politiques se sont créés une langue spécialisée, comme tous les professionnels d'une discipline. De même que les critiques littéraires ont leur langage spécialisé, que je sais pas quoi, les astrophysiciens ont la leur. Finalement, en étant toujours, comme il le dit, dans le commentaire et la glose des uns des autres, on se forge une langue de groupe de recherche presque, et qui du coup se sépare de la langue commune. Et cet effet de reconnaissance, on a trois mots et puis hop, on sait qui parle, c'est de faire dire quelle classe technocratique est en train de parler. D'une certaine manière, l'autre pendant de ça, c'est que cela appelle des réponses qui elles aussi vont être stéréotypées, parce que quand on demande toujours aux hommes politiques les mêmes questions, la réponse va être répétitive elle aussi. Et c'est vrai que ce que j'ai moi constaté au fil du temps, c'est à quel point les éléments de langage deviennent la substance même des interviews politiques. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de conversation,
d'exploration. Parce qu'il n'y a pas suffisamment peut-être d'espace et de temps de parole.
Et il n'y a pas de temps, tout à fait.
Donc ça oblige à synthétiser à l'extrême et donc à recourir à ces éléments de langage.
Exactement, et du coup de se reposer aussi par sécurité, parce qu'on a toujours peur de faire un écart, sur une petite formule toute faite, qui a déjà été testé à la fois parfois sur des focus group ou à l'intérieur du mouvement politique. Mais ça veut dire que à la fin de la journée, on a entendu de la part de 10 personnalités politiques différentes exactement les mêmes mots. We'll be right back.